Accès libre avec Luc Fortin.
Lundi 15 avril, le milieu du mois. J'espère que ça se passe bien là où vous êtes. Monsieur La Liberté, bonjour.
Bonjour.
Jean-Sébastien qui continue de gérer la console. Christiane qui, elle, est édimestre recherchiste et qui va nous partager quelques petites nouvelles. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, entre autres, l'achat de notre prochaine paire d'écouteurs. Là, justement, moi, je brise mes écouteurs aux 15 mois. Et je devrais apprendre, mais malheureusement. Quand dévoiler notre handicap à un prochain employeur potentiel? C'est une des questions qu'on va se poser. Où en sommes-nous avec les mines antipersonnelles? Moi, j'ai envie de savoir qui paye pour enlever ces mines-là. Est-ce que les pays qui les placent sont, disons, amendés? Je présume que non, mais j'aimerais ça penser que oui. Et finalement, on va puiser dans le passé. Parce qu'il y a une discipline bien particulière, l'archéologie du handicap. Du moins, il y en a une qui a décidé de se spécialiser là-dedans. C'est d'ailleurs ainsi qu'on commence l'émission. Salutations Valérie Delattre, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, merci, c'est gentil. Vous qui êtes archéologue, archéo-anthropologue à l'Institut national de la recherche archéologique préventive. C'est drôle, ça, de l'archéologie préventive.
Ça veut dire qu'on intervient en amont des travaux. Quand ils construisent un parking, le TGV, on intervient avant.
Ouais.
Donc on fait de la prévention pour sauver le patrimoine.
Bon, l'archéologie du handicap, est-ce que c'est une discipline, disons, que vous inventez un peu malgré vous? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui se spécialisent là-dedans?
Alors, en fait, c'est une discipline qui s'inscrit au sein d'une discipline scientifique beaucoup plus vaste qui s'appelle la paléo-anthropologie, l'étude des maladies du passé. Et en fait, c'est une discipline qui est un petit peu pionnière. On n'est pas nombreux à s'intéresser à ce fait. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'y consacrer pleinement parce que j'ai rencontré un champion paralympique et qui m'a lancé un défi et qui m'a dit « Toi qui t'occupes des squelettes du passé, qui fais revivre les gens qui ont habité nos ancêtres, c'était comment leur vie quand ils étaient handicapés, amputés, etc. Est-ce qu'on les sacrifiait? Est-ce qu'on les tuait? » Et en fait, on ne savait pas.
Je veux juste m'assurer du bon titre. Ce que l'archéologie nous apprend sur l'histoire du handicap, c'est bien ça?
Voilà.
OK. Et je présume que c'est disponible encore ou...
Oui. Sur Amazon, sur Google, on peut trouver. Je viens d'écrire un petit ouvrage là-dessus pour montrer comment le passé peut éclairer nos comportements actuels. C'est-à-dire pas donner des leçons sur les bonnes pratiques, comment on fait pour inclure, faciliter l'accessibilité ou autre, mais comment il peut éclairer nos façons de faire. Et c'est tout à fait intéressant.
Vous savez s'il est disponible en format audio, par hasard?
Pas encore.
Pas
il est sorti il y a juste quelques mois, et donc comme il a reçu un bon accueil, la maison d'édition envisage... De le faire et traduire en anglais et probablement de faire un format audio.
Ben, tant mieux. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous trouvez beaucoup d'ossements qui portent des traces de handicap ou ça dépend des époques?
Alors, ça dépend des époques. Alors, bien évidemment, toutes les époques où on a incinéré les défunts, on n'a pas du tout accès aux ossements et donc aux pathologies osseuses. Donc, une partie des Gaulois, une partie de l'âge du bronze nous est totalement illisible. En revanche, on a accès à toutes les lectures ostéologiques. Et bien évidemment, il faut imaginer qu'on est en phase directe avec les techniques chirurgicales, les techniques d'orthopédie. Et par exemple, un footballeur à l'heure actuelle qui se casse le tibia et le pyrrhoné. Sa fracture, elle est réduite, il va être plâtré quelques mois et après, il court comme un lapin.
C'est vrai.
Jusqu'au Moyen-Âge, on ne sait pas réduire une fracture. Et donc, l'os se ressoudait de façon anarchique et c'était source de handicap. On pouvait boiter et être lourdement handicapé pour une simple fracture. Donc, vous imaginez bien que nos cimetières et nos nécropoles sont remplis de gens qui sont bossus, qui ont des problèmes de vertèbres, qui boitent.
Ils étaient majoritaires.
Bien, mais le handicap est très, très, et puis toutes les pathologies liées à l'âge, vous imaginez? Et donc le handicap est très présent dans les communautés du passé. C'est pas quelque chose qui est atypique et qu'on éloigne. On est tous handicapés en puissance parce qu'une chute de cheval, une chute d'escalier, et on pouvait risquer de boiter ou d'avoir un membre ankylosé, paralysé.
Donc,
donc le handicap est très présent.
Donc, si l'on présume que c'était des sociétés qui réussissaient à s'adapter bon an, mal an, est-ce qu'il y a des preuves de cela?
Ben, déjà, il y a toutes les opérations. Imaginez une trépanation. Trépaner un crâne au néolithique. Alors, maintenant, au XXIe siècle, on le fait toujours parce que le cerveau est comprimé contre l'os, etc. J'imagine qu'au néolithique, on devait penser qu'il y avait des esprits malfaisants dans la tête et qui donnaient des migraines. Eh bien, on trépanait au silex. Vous imaginez, il fallait une bonne pharmacopée ou connaître les champignons hallucinogènes pour le patient.
Ouais, ouais.
Les amputations. Au néolithique, 5000 ans avant notre ère, on ampute quelqu'un qui a la gangrène. Donc, ça montre bien l'intérêt que l'on porte aux membres de son groupe. On essaye de les sauver, on les aide pendant leur convalescence, et puis après, on peut les appareiller, par exemple. On retrouve des prothèses dans les tombes.
Mais moi c'est drôle, je n'ai jamais pensé à ça, mais lorsqu'on regarde les monuments qui sont toujours debout, ou que ce soit des colisées, est-ce que l'on voit, plutôt que des marches, qu'on travaillait avec des rampes d'accès, ou parce que justement, ils étaient si nombreux à avoir de la difficulté peut-être à monter des marches?
Alors, les temples égyptiens sont souvent équipés avec des rampes. Le temple d'Hatshepsut, ce ne sont que des rampes, il y a très très peu d'escaliers. Alors, je ne sais pas si ça a été construit dans l'intention de favoriser l'accessibilité. Je ne sais pas si en termes d'architecture des églises, des abbayes ou des châteaux, on travaillait avec de l'accessibilité. On devait surtout développer une grande entraide entre les hommes. Une entraide de proximité dans la famille, dans la paroisse, dans le village. On se portait, on fabriquait des cannes, des espèces de corbeilles pour transporter quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, des premiers fauteuils roulants. Je pense qu'il y a une accessibilité humaine, à défaut d'être technique et matérielle, qui est beaucoup plus importante parce que autour de soi, on devait voir, nous on appelle ça des déglingués ou des corps différents, en grand nombre. Et regardez les tableaux dans les musées, regardez les chapiteaux des abbayes, les murs des temples et des tombeaux égyptiens, vous verrez plein de corps différents, avec des bosses, avec des membres atrophiés, avec des poliomyélites. Moi, j'ai fait une visite au Louvre récemment, les tableaux, les vases, les sculptures, les personnes différentes sont partout.
Mais Valérie Delattre, comment savoir, et je sais que c'est votre métier, mais justement, aidez-nous à comprendre, comment savoir si, disons, l'os a été atrophié par un accident ou une malformation ou par le temps?
Alors, c'est très lisible sur l'os. On voit tout à fait la dégradation, par exemple, d'un corps dans un certain sédiment ou avec les racines des arbres, etc. La lecture sur la surface de l'os, elle est totalement différente. C'est vraiment l'apprentissage du métier d'archéologue. La dégradation du temps sur les matériaux, l'os est un matériau comme les autres, elle est extrêmement lisible. En revanche, des traces d'outils au silex ou des traces d'outils en métal sont extrêmement lisibles. Et pour le coup, moi, archéologue du funéraire, je fais le diagnostic qu'il y a quelque chose qui est anormal et après je fais appel à un médecin qui peut faire, lui, le diagnostic rétrospectif et me donner un nom sur la pathologie. Et auquel cas, eh ben, on mutualise nos disciplines, on travaille en collectif, et on arrive à se comporter comme le ferait un médecin à l'heure actuelle, qui aurait un patient muet, hein, pour le coup, qui ne pourrait pas dire là où il a mal, mais c'est vraiment extrêmement lisible sur l'os. Évidemment, on n'a accès qu'au handicap qui laisse une trace sur l'os.
Visible, oui. Si l'on remarque plusieurs types d'ossements qui témoignent d'un handicap généralisé, est-ce que dans les outils, on a trouvé également des instruments qui pouvaient servir à, modifier ou aider des gens qui avaient des besoins particuliers ou c'est...
Ah ben bien sûr.
Oui, okay.
Alors on va trouver tous les instruments chirurgicaux déjà pour pouvoir travailler sur l'os. On a des trousses de médecins depuis l'Antiquité avec des scalpels, avec des scies, avec des trépans.
Et ça, on en a.
Oh oui, on en
Ah
a.
oui,
Oh,
ok.
par exemple, des trousses de médecins, de l'Antiquité et de chirurgiens, il y en a plein à Pompéi. Et on a encore les coffres en bois ou
Ouais.
en
Ah oui,
cuir
du
avec toute
bois.
l'instrumentation. Ah oui, c'est conservé au musée de Naples. On a Ambroise Paré, qui est un très grand orthopédiste de la fin du Moyen Âge en France, qui travaillait sur les champs de guerre, les champs de bataille. On a ces instruments. Donc tous ces instruments-là, on les connaît. Donc c'est les instruments des praticiens. Et puis on a dans les tombes les appareillages. Comme je vous disais, on a des cannes, on a des attelles, on a des prothèses, on a tout un tas de c'est très très ingénieux, hein. C'est les gens qui inventent ça pour leurs proches, parce qu'il n'y a pas de catalogue d'orthopédistes
Ouais,
et de
mais
prothésistes qui circulaient. Donc le forgeron, etc., celui qui fabriquait des armures, eh ben, était inventif et arrivait à fabriquer des appareillages compensatoires pour ceux qui étaient handicapés.
un peu comme les exosquelettes aujourd'hui.
Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'on a une idée, parce que bon, on parle d'une majorité, donc on peut présumer que aujourd'hui on qualifierait une société ouverte, alors que
Oui.
j'ose même pas dire ouverte, c'était presque la norme. Et là, tout à coup, whoop, lorsqu'on étudie certaines périodes de l'histoire, on se rend compte que la personne handicapée est reculée dans les cuisines,
Tout à
qu'elles
fait.
n'ont plus d'emploi, qu'elles sont presque soit honteuses ou qu'est-ce qui s'est
Mis à
passé?
l'écart, oui.
Ouais.
Eh ben, on a l'impression que le siècle des Lumières, aux alentours du 18e siècle, on a voulu bien faire, c'est-à-dire qu'on a regroupé les personnes handicapées, les aveugles entre eux, les sourds entre eux, les fous, entre guillemets, avec tout ce que ça recouvrait, ce terme de fou. Et en fait, en voulant bien faire, en les regroupant pour les éduquer, eh ben, on les a exclus du champ du quotidien. Et en fait, ils sont regroupés par pathologie et on ne les a plus bah, dans la paroisse, dans la famille, dans la rue ou dans le village.
Mais
Et en
sous
fait, on a l'impression que ce tournant-là, de l'éducation, du regroupement, de la science, qui a fait que ce qui était banal, qui était empirique,
ouais.
pragmatique, eh ben, c'est devenu quelque chose de compliqué, une prise en charge.
Mais en même
C'est
temps,
vraiment le... Oui.
souvent, on entend, on va terminer là-dessus malheureusement, mais
Oui.
souvent, là, on entend des gens qui démarrent ces institutions-là comme étant des gens qui ont été touchés parce qu'ils voyaient
Oui,
que ce soit
bien
des
sûr.
nécessiteux, des quêteux,
Bien
donc des
sûr.
gens qui étaient vraiment désavantagés parce que la société les avait mis de côté déjà
Oui, mais
avant le...
pas forcément. Tout
Non?
part en fait, tout part d'un bon sentiment, c'est-à-dire
Ouais.
aider son prochain, souvent sous couvert de la religion, hein. Quelle que soit la religion, l'aide et l'assistanat sont vraiment au cœur des préoccupations des pratiquants. Et puis il y a eu la science. Quand on a mis dans les cases, quand on a mis les animaux, etc., qu'on a travaillé sur l'évolution, celui qui était différent, on ne savait pas trop dans quelle case le mettre.
Ouais.
Et puis après, il y a eu l'industrialisation. Il fallait se réaliser par le travail en usine. Quand on était handicapé, ben on était forcément à la marge, on devenait une bouche inutile. On devient une bouche inutile quand le climat ne va pas, quand il y a une guerre, etc., etc. Et là, ça devient très compliqué pour les personnes handicapées. Et moi, je dirais que c'est vraiment les tournants 18e, 19e qui font que les choses qui sont banales,
Ouais.
sur lesquelles on ne s'interroge pas, c'est empirique, eh bien, deviennent des problèmes, comme elles sont à l'heure actuelle. Et puis, il y a eu les problèmes du 20e siècle, Action T4 avec les nazis, etc., où vraiment le handicap est devenu un point mort dans la
Ouais.
société.
Ouais, tout à fait. En tout cas,
Et
c'est...
c'est pour ça que le passé, il doit nous éclairer. Moi, j'aime bien ce mot d'éclairage, pas nous donner des leçons, mais nous dire, tiens, bah, depuis Néandertal jusqu'à les Gaulois, les Gallo-Romains, puis dans tous les pays, parce que là, moi, je vous parle essentiellement d'Europe, mais il y a une archéologie du handicap en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, des tas de peuples qui ont su composer avec les personnes qui leur étaient différentes. Et donc, je trouve que c'est pas inintéressant de se dire, bah, et nous? Dans nos sociétés civilisées, comment on se comporte? Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que, voilà, toutes ces problématiques, elles font vraiment résonance avec nos comportements, et je trouve que c'est très, très riche de, bah, d'idées, voilà,
Et
de réflexions.
c'est intéressant de voir que parfois, de bonnes intentions arrivent à
Exactement.
certains résultats plus ou moins
Exactement.
positifs. En tout cas, moi, j'ai
Et
hâte de
après.
mettre l'oreille
Ah.
sur cette œuvre que ce que l'archéologie nous apprend sur l'histoire du
Super.
handicap. Valérie Delattre, merci beaucoup, beaucoup.
Ben, c'est gentil de m'avoir appelé. Je vous remercie. Bonne journée.
C'est une des premières tunes rock que j'ai entendues. Le centre du disque était Jaune Autobus. The Guess Who avec No Time. Alexandre Bellemare, te souviens-tu, toi, ta première tune rock que t'as... Tu sais, là, t'étais jeune, là, puis t'as dit « Ah, c'est différent, ça! »
Ben, je dirais que les premières chansons rock que j'ai entendues, ça fait partie quand même des chansons des Beatles, parce que mon père était quand même très, très fan des Beatles.
OK. Ouais, tu peux comprendre. Avec Alexandre de chez Canadialogue, aujourd'hui, on s'intéresse à mon prochain achat d'écouteurs. Et peut-être que vous avez, vous aussi, besoin de vous acheter des écouteurs. Dieu sait qu'il y en a. Même, j'ai lu ce matin que... On avait même travaillé sur l'écouteur lorsqu'on pratique le sport. Il y a vraiment une gamme. Il y en a pour les fous, pour les fins, là.
À n'en plus finir, effectivement. Et donc.
Est-ce qu'il y a plus de scrap que de bons? Est-ce que c'est 50-50 ou en général,
on se sentir
bien?
C'est sûr qu'il y a de la scrap, on peut en avoir comme dans tout. Hein. Il existe des modèles chinois, Bluetooth ou même filaires qui peuvent se trouver, admettons, entre 10, 20, 30 $ qui vont donner un son de canne de conserve. Oui, ça existe.
Ouais.
Est-ce que c'est conseillé? Non.
Alexandre, le phénomène d'obsolescence programmée, est-ce qu'il existe en casque d'écoute ou en écouteur où c'est le genre de truc que si on y fait attention, il peut nous être utile longtemps?
Bon, ce qui existe au niveau de l'obsolescence programmée de ce côté-là, c'est pas nécessairement la paire d'écouteurs en elle-même. C'est certain que la paire d'écouteurs a pu se détériorer dans le sens où, avec les années, la technologie Bluetooth va avancer. Donc, oui, effectivement, le Bluetooth va se trouver à avancer en évolution, tout ça. On est rendu au Bluetooth 5.1. Par contre, des écouteurs avec fil, ça va toujours rester bon. Là où ce que... Même chose d'ailleurs pour le Bluetooth. Je peux encore utiliser des très, très vieux écouteurs Bluetooth, soit dit en passant. C'est juste que, ça va tirer de la patte un petit peu. Il va y avoir des lenteurs, tout ça. Là où ce que le bas blesse, c'est au niveau des fabricants d'appareils qui retirent, par exemple, les prises audio 3,5 mm, qui font en sorte qu'on ne peut plus utiliser les anciens écouteurs qu'on avait acquéris par le passé.
Heureusement, il y a des adaptateurs, par exemple.
Oui, exactement. C'est ce que je m'en allais dire. On a des adaptateurs, effectivement. Ou encore, il existe même des adaptateurs qui permettent de convertir un casque d'écoute qui ne supporte pas le Bluetooth en un casque qui le supporte.
Ah oui? Wow.
Oui, ça existe. Okay. Par exemple, à l'Uratech, font certains modèles comme ça. Il y en a pour environ peut-être une soixantaine de dollars pour une entrée de gamme là, dans ce coin-là. Si on veut juste, dans le fond, un récepteur Bluetooth, là, à ce moment-là, on peut avoir de quoi pour peut-être, mettons, 20 à 30 $.
Bon, plutôt que parce que là, on a lancé différents modèles, allons-y de façon systématique. Là. Parlons de type de connectivité. Qu'est-ce qui existe sur le marché, les grandes catégories?
Oui, il existe plusieurs choses. Il existe évidemment les écouteurs filaires, donc avec le jack 1.8, là, donc le 3,5 mm. Il existe également des jacks plus gros, donc qui se mettent dans des consoles, évidemment. Il existe des écouteurs sans fil via Bluetooth. Il existe des écouteurs sans fil qui viennent avec une base qu'on peut, par exemple, connecter derrière un téléviseur. Il existe des écouteurs sans fil, mais par USB, donc ça vient avec une espèce de petite clé USB, là, comme des claviers sans fil. Ça peut se connecter derrière un ordinateur, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment adapté pour une utilisation avec un téléphone mobile. Et évidemment, aussi, on a des écouteurs qui sont mixtes, donc qui fournissent les deux technologies ou plus, par exemple, plus ou moins deux ou trois technologies, Bluetooth, filaire et USB sans fil. Oui, ça existe également.
Bon, j'imagine que chaque compagnie a ses bons et ses moins bons modèles, mais en général, si on n'est pas familier, est-ce qu'il y a des compagnies que l'on doit éviter et est-ce qu'il y a des compagnies que l'on se dit « Ah, ça, en général, ça regarde bien ».
Bien, c'est certain qu'au niveau de tout ce qui est chinois, c'est un risque à prendre.
Okay.
On s'entend que du chinois, là, c'est un risque à prendre. Ça peut donner des très bons résultats, mais par contre, nécessiter à la fois certaines adaptations.
Mm-hmm.
C'est ça qui risque d'arriver à ce moment-là. Par contre, au niveau du Bluetooth, tout ça, c'est de plus en plus là, populaire. On parle pour des modèles, je dirais, quand même, très corrects, entre 120 et 220 $.
Okay.
Il existe des modèles encore plus onéreux si, par exemple, on ajoute la réduction du bruit. Bose offre ce genre de technologie-là, mais ça va être encore beaucoup plus onéreux. Par exemple, moi, j'ai acheté des Bose QC30, on parle environ de 450 $.
Okay.
Mais encore là, des écouteurs, il en existe de 1 $ au magasin de pièces à aller jusqu'à 5000 $.
Ouais.
Donc là, on a tout un range.
Alexandre, à part le coût, et le type de connexion, là, qu'est-ce que je dois prendre en considération avant mon achat?
Oui, ben c'est certain que le confort, c'est quand même un point d'importance parce qu'on a des écouteurs qui, par exemple, des casques qui vont se mettre par-dessus la tête avec des coussinets pour recouvrir les oreilles. On a également, donc ça se trouve être du supra-auriculaire, on retrouve également à avoir des écouteurs qui rentrent dans l'oreille. Donc, c'est comme une espèce de d'embout de caoutchouc là qui vient s'insérer à l'intérieur de l'oreille et qui rentre plus ou moins profondément selon la sorte d'écouteur. C'est certain que ce genre de petit embout-là, ça vient quand même masquer énormément le bruit ambiant. Donc, si c'est un écouteur pour le déplacement, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ce sont des écouteurs comme les AirPods et les EarPods. La différence entre les deux, AirPods, c'est sans fil, EarPods, c'est avec un fil. Donc, c'est la différence entre les deux. Et ça, c'est dans le fond, ça vient, dans le fond, s'accoter sur l'entrée du pavillon de l'oreille. C'est pas tout le monde qui apprécie nécessairement ce genre d'écouteur. Ça reste à voir si pour vous ça tient bien dans l'oreille, mais quand même, c'est pas quelque chose qui masque nécessairement beaucoup le bruit ambiant. L'autre chose aussi qui existe, c'est la conduction osseuse. Donc, dans le fond, ce sont deux espèces de haut-parleurs qui vibrent, qu'on met en avant des oreilles. Donc, ça ne recouvre pas l'oreille. Ça permet vraiment d'entendre correctement la synthèse vocale ou l'appel téléphonique, tout en entendant correctement les bruits environnants. Donc, c'est intéressant pour ce qui est du GPS de ce côté-là.
Je présume aussi que, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y a il y a ce genre d'appareils où on peut entendre à la fois la synthèse vocale et, disons, la musique, mais d'autres qui n'offrent pas différentes sources en même temps. Faut savoir l'utilisation qu'on veut en faire.
Exactement. Ben, juste pour terminer, oui. Par contre, sur la conduction osseuse, ça peut quand même, ça va dégrader quand même particulièrement le son. Il faut quand même s'attendre à ça de ce côté-là. Okay. Au niveau du multisource, oui, effectivement, ça existe. Il y a des écouteurs, par exemple, chez Bose, qui permettent de pairer ou de coupler là, jusqu'à 7 périphériques simultanément. Wow. C'est certain, par contre, que 2 périphériques ne pourront pas émettre du son simultané. C'est, en fait, il faut falloir qu'un des périphériques arrête la diffusion pour que l'autre embarque. C'est ça. Donc, mais par contre, oui, on peut écouter là, de la musique avec la synthèse vocale si les deux canaux audio sortent du même appareil, par exemple, du même iPhone, des choses comme ça.
Mais est-ce que l'on dit là qu'il y a des écouteurs où peut-être je ne pourrais pas entendre VoiceOver lorsque j'entends de la musique dans mon téléphone?
Non, VoiceOver va toujours être audible. Il n'y aura pas de problème. Par contre, il faut quand même faire attention au niveau des écouteurs, à savoir à ce que la transmission Bluetooth ne cause pas de problème. Par exemple, à ce que on manque certains mots de VoiceOver, ça peut arriver. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a des écouteurs qui désactivent le canal audio après un certain nombre de temps d'utilisation, ce qui a comme impact de faire en sorte qu'on manque des mots ou d'avoir de la latence, du délai lorsqu'on utilise VoiceOver, donc plus ou moins évident lorsqu'on tente, par exemple, d'écrire au clavier à l'écran.
Merci beaucoup, Alexandre Bellemare.
Ça m'a fait plaisir. On pourra encore en parler longtemps.
Bien, ça, c'est sûr, mais on n'a plus le temps. Alexandre, exact. Qui travaille chez Canadialogue, nous, de l'autre côté, on se pose la question, quand dévoiler notre handicap si on veut un nouveau job?
Vous écoutez Accès libre.
Deuxième partie de l'émission. On est à la demi avec un sujet qui... Il y en a... Vraiment, chacun a ses variantes. Chacun a sa position là-dessus, mais on voulait demander à quelqu'un qui va parler de comment approcher la recherche d'emploi, comment essayer d'être soi-même sans nécessairement cacher ou mentir quoi que ce soit. C'est Michaël Dulin qui, lui, est coordonnateur à l'Étape. Il sera, je le disais, co-animateur d'une séance d'information à ce sujet. Ça se passe plus tard cette semaine, pour ceux qui nous écoutent en direct. Là, ça se passe quoi, jeudi, Michaël?
Oui, ça se passe jeudi en après-midi dans les bureaux de l'Étape.
L'Étape qui, depuis longtemps, travaille à l'employabilité des personnes qui vivent avec des limitations. Vous dites qu'il faut choisir le bon moment, Michaël, pour divulguer sa limitation. C'est ce que j'ai lu dans un des articles qui traitait de l'atelier. Comment savoir qu'est-ce qu'est le bon moment et surtout comment se respecter soi-même, parce que le bon moment officiel est peut-être pas nécessairement le moment où moi je le sens.
Non, c'est ça. Puis c'est vraiment un sujet très personnel. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise d'en parler. Donc on essaye de démystifier en fait justement la notion du handicap et puis de le rentrer aussi dans le contexte de l'entrevue. Il faut aussi rappeler, puis on essaie de mentionner ça dans les ateliers puis dans les séances d'information qu'on fait, que l'entrevue, l'objectif de l'employeur puis l'objectif du candidat, c'est de, pour l'employeur, c'est de chercher puis de recruter la personne qui convient le mieux par rapport à ses exigences puis par rapport à ses attentes par rapport à un poste qui est bien défini, en tout cas on l'espère. Et pour le candidat, ben, c'est d'obtenir en fait de l'emploi, donc de montrer ses compétences, de montrer qu'est-ce qu'il a de mieux en fait par rapport à l'affichage de poste. Donc on essaie de recadrer un peu ces informations-là. Oui. Et puis dans tout ce contexte de recrutement, donc par rapport à tout le processus de dotation, on essaie de se questionner à savoir, bon, est-ce que en tant que candidat en situation de handicap, je dois mentionner ma limitation, mes difficultés? Si oui, à quel moment? Mmh. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut me porter préjudice par rapport à ma candidature? Donc c'est un peu tout ça qu'on essaye de...
Mais ce serait quand le bon moment?
C'est difficile à dire dans le sens où c'est toujours... une situation individuelle, donc nous, ce qu'on essaie de dire, puis un peu le message, puis de manière générale, c'est qu'on essaie de retarder le plus tard possible dans le processus de dotation la question de la divulgation, puis ça a appuyé sur des faits dans le
sens... Juste avant la fin de l'approbation, à la fin du 3 mois, là, qu'on est déjà embauché, là, non, j'exagère évidemment, là, mais en même temps, c'est parce que je trouve que le risque est grand de... il faut que tu aies un tannant de bon CV... et une bonne lettre pour que la personne, si elle ne sait pas que tu as une limitation et qu'elle te voit arriver avec ton handicap visible, ait autre chose dans sa tête que « Oh boy, comment je fais pour m'en débarrasser pour passer à l'autre candidat? » Il faut vraiment que la personne dise « Ah, OK, malgré ce que je vois devant moi, cette personne-là, je dois trouver une façon de mettre à profit les compétences que j'ai vues sur le CV qui m'a motivé à l'inviter ici en entrevue. » C'est pour ça que je me dis, plus on le met tard, plus on est confronté à cette perception risquée-là.
Vous avez mentionné un point qui est quand même important par rapport à est-ce que c'est visible ou est-ce que c'est non visible.
Oui.
On s'entend qu'une personne, par exemple, qui pourrait avoir un trouble de santé mentale ou des problèmes autres, ou comme par exemple une personne qui pourrait avoir un trouble du spectre de l'autisme, c'est pas écrit sur sa face que la personne peut avoir certaines difficultés ou qu'il pourrait être confronté à certains obstacles dans l'exercice de son travail. Donc là, la question est différente par rapport à un handicap qui est visible. Ouais. C'est sûr que par rapport à tout ce qui est envoi de CV et puis convocation à l'entrevue, ça va être plus facile. Mais par rapport à l'entrevue, c'est là où il va falloir essayer de trouver des stratégies pour amener la question du handicap, peut-être rassurer l'employeur parce que on a tous des préjugés, puis l'employeur pourrait se dire effectivement c'est peut-être des problèmes à en devenir. Donc c'est de comment ramener aussi sur rassurer l'employeur, mais en même temps faire valoir ses compétences, puis rassurer sur peut-être les moyens, les accommodements qu'on peut utiliser en fait.
En vous écoutant, Michael, je sais pas, je me dis, quelqu'un qui a un handicap invisible peut attendre à l'entrevue, et même en entrant dans la salle d'entrevue, il n'est pas confronté à une perception négative parce que la personne ne voit pas son handicap.
Exact.
Par contre, elle a vraiment intérêt à le dire dans l'entrevue. Je trouve que ça démontre une aisance avec sa situation et tout. La personne qui, comme moi, a un handicap visible, moi, j'aurais tendance à penser si mon CV a fait le boulot et que l'on m'appelle pour prendre rendez-vous, c'est là où je dirais peut-être... combien de coins de rue je dois traverser avant de me rendre chez vous à partir de l'arrêt d'autobus, parce qu'étant aveugle, j'ai besoin vraiment de... Comme ça, on vient de désamorcer le « ouh » de la personne lorsqu'elle me voit arriver, et en même temps, elle peut pas me dire « on t'appelle pas à l'entrevue », le rendez-vous est déjà pris.
Ouais, puis si l'employeur vous disait non, finalement, là, il y aurait un motif de plainte.
Ouais,
il y aurait clairement une discrimination.
Mais
c'est un bon point d'amener la question des accommodements par rapport à une convocation à l'entrevue. Par exemple, une personne qui serait à mobilité réduite pourrait essayer de demander, bon, Elle pourrait aussi essayer de voir si le bâtiment est accessible, mais mettons, si l'information ne l'est pas, ça pourrait être une possibilité de demander, bon, est-ce que les locaux sont accessibles? Est-ce que je vais avoir des difficultés pour me rendre ou pas? Mais sans forcément mentionner sa limitation ou quoi que ce soit, mais juste de l'amener par rapport aux accommodements nécessaires et puis aux besoins, en fait, de la personne.
Ouais. Revenons au handicap invisible. Je suis juste curieux. Bon, on a parlé de déclaration, de ma part, mais est-ce que légalement, si j'ai un handicap invisible, je dois déclarer ma limitation à l'employeur potentiel?
Il n'y a pas d'obligation légale, non. Okay. En fait, l'employeur, lui, quand il fait sa sélection, dans les meilleures pratiques, là, on s'entend qu'il doit faire sa sélection en se basant sur les exigences du poste et puis les attentes qu'il a. Donc, si la personne est en mesure de réaliser les tâches, puis qu'elle ait toutes les compétences nécessaires, il n'y a aucune obligation pour... qui doit en fait donner des informations sur son diagnostic, les rendez-vous médicaux qu'il doit avoir ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de l'ordre du personnel.
Quand vous dites, Michael, dire le plus tard possible, est-ce que c'est le plus tard avant d'être embauché ou si on est capable même de traverser cette étape-là, ça peut être dans nos premières journées d'adaptation? Quand vous dites le plus tard possible, jusqu'où peut-on se rendre?
Ben, ça dépend, en fait, encore une fois, ça dépend de l'aisance de la personne. Il y a des personnes qui pourraient ne jamais le dire parce qu'il n'y a aucune répercussion.
Ben là, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème.
Ben, c'est ça, c'est dépendamment de, mettons, une personne qui a des rendez-vous médicaux à une telle fréquence, en fait, elle peut avoir des répercussions. Quelqu'un qui a une fibromyalgie, qui peut avoir de la fatigue, mais qui a trouvé des moyens pour compenser, puis qui est en mesure de réaliser ses tâches de travail parce que c'est un emploi à temps partiel ou autre. Il y a des situations où la personne peut ne pas le dire, mais si, mettons, il y a des répercussions en lien avec son travail, ça peut être au moment de l'embauche, en fait, où la personne peut demander un peu certaines mesures d'accommodement ou de savoir un peu comment la personne pourrait s'arranger, en fait, en lien avec l'accomplissement puis la réalisation des tâches de travail. Puis, ça peut être là aussi où la personne peut mentionner les besoins d'accommodement dont elle va avoir besoin, puis des mesures aussi, parce que... Avec Emploi Québec, il y a certaines mesures qui existent en fait pour compenser certaines difficultés, que ce soit du mobilier de bureau adapté ou des heures d'interprétariat pour des personnes sourdes ou un soutien au salaire pour d'autres personnes.
Justement, parlons-en de ces programmes d'embauche-là. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler, disons, parlons du contrat d'intégration au travail parce qu'ils disent... C'est comme de dévaloriser un peu mon travail. Je ne veux pas être considéré comme du cheap labor.
Ouais.
D'autres qui le voient différemment, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que l'employeur, pour lui, c'est intéressant de savoir qu'il y a des programmes d'embauche au soutien à l'embauche ou au contraire, justement, ça pourrait mettre la puce à l'oreille que hein, c'est vrai qu'il va être moins rapide, c'est vrai que...
Mais en fait, ça dépend. Chacun, c'est vraiment toujours très personnel.
Okay.
Les personnes peuvent considérer la mesure comme discriminatoire ou percevoir ça comme encourager en fait les employeurs à aller chercher des subventions sans forcément reconnaître les compétences. Moi, je le vois dans le cadre de mon travail, on est confronté, on a souvent des situations où les personnes en ont besoin. C'est vraiment une mesure qui, sans celle-ci, le candidat ne pourrait pas être embauché ou en tout cas, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc moi, je le vois vraiment comme une mesure qui compense les difficultés d'une personne en lien avec son handicap à pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Puis, je pense que c'est un peu ça la mesure, c'est de favoriser l'égalité d'accès et l'égalité d'accès au marché du travail à toutes les personnes, peu importe leurs difficultés. Par exemple, je pense aux personnes sourdes qui ont besoin des services d'interprète pour communiquer dans leur langue avec leur employeur ou pour pouvoir bénéficier de formation. Je pense que le CIT, en l'occurrence, c'est vraiment une mesure compensatoire. Par rapport au soutien au salaire, si tu as des personnes qui, en raison de leurs difficultés, éprouvent vraiment de la difficulté à atteindre les exigences du poste parce qu'il y a des niveaux de productivité à atteindre. Mais là encore, ça permet de faciliter à la personne d'atteindre ses objectifs et puis en même temps de ne pas culpabiliser toujours en se disant ben là, je ne suis pas bon, je n'atteins pas mes objectifs, mes employeurs ne sont pas contents, mes collègues trouvent que je ne travaille pas assez vite. Fait que ça permet un peu de, de, d'enlever un poids par rapport à des exigences de productivité qui sont, dans tous les cas, inatteignables pour certaines personnes.
S'il y a des gens qui ont envie de réfléchir davantage sur la question, est-ce qu'il y a toujours de la place? Qui peut s'inscrire à cet atelier de jeudi?
Oui, donc il reste encore quelques places pour s'inscrire. En fait, il faut contacter... vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'État. Et de Vie Autonome.
C'est vrai que Vie Autonome est partenaire avec cette activité-là.
Oui, c'est un partenariat. Donc, ils peuvent encore s'inscrire en contactant par courriel la personne qui est en charge des inscriptions. Puis, si... On s'entend que là, on va donner de l'information générale, puis on va essayer de répondre aux questions le plus possible. Mais il y a toujours, c'est toujours des cas particuliers, individuels. Ouais. Si les personnes veulent aller plus loin un peu dans leur réflexion, ben je les invite à communiquer avec l'État ou en tout cas à avoir un conseiller en emploi qui pourrait les aider dans cette réflexion qui peut quand même être importante dans le processus.
Merci d'être passé par chez nous.
Merci. Michael
Dulin, donc, qui sera co-animateur de cet atelier jeudi le 18 avril. C'est à quelle heure?
Ça commence à 13h. Puis juste pour préciser, je le co-anime avec Mme Sylvie Laforge, qui est spécialiste en dotation, qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans une entreprise d'État sur le programme d'accès à l'égalité en emploi, puis les processus en lien avec la gestion de la diversité.
C'est ça. Précision faite.
Ouais.
Stéphane Pierre Decoux, Jean-Sébastien. Ah oui? T'as rendu Christiane heureuse et t'as rencontré ton obligation de trouver du B3.
Je dois quand même remettre à Christiane le mérite qui lui revient. C'est elle qui m'a indiqué qu'il y avait un beau solo de B3 dedans.
Il y a beaucoup de bons B3 dans les albums réalisés par Mitchell Froom, qui est un ancien claviériste d'Elvis Costello.
Ça, c'était du Crowded House?
Oui.
Et tu te peux plus, là, tu te roules par terre.
Ben oui. Quoique, des fois, je trouve plate que la radio se souvienne juste qu'ils ont fait cette chanson-là, mais... parce que j'ai...
Mais tu avais l'occasion de faire entendre 86. Autre chose, là?
Ben, la prochaine fois.
OK, OK. Autre chose avec du B3. Comment il s'appelle, lui, déjà? Là? Il est assis à notre droite. Là. Jérôme Bobin, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très
vous êtes
bien.
Déjà là. Vous ne parlerez pas, mais vous êtes déjà là.
Non, mais je serai discret. J'écouterai attentivement. Ben,
consumez votre café pendant ce temps-là. Diane, oui. Christiane, de quoi jasez-vous?
Je commence avec une petite suggestion télé.
Oh.
Dont je ne parlerai pas trop longuement pour ne pas faire de divulgation. Mais hier, j'ai écouté les 8 épisodes de la série Special sur Netflix, qui est écrite, produite et jouée par Ryan O'Donnell et basée sur ses expériences d'homme gay qui vit avec une paralysie cérébrale légère.
OK.
Et c'est ça, c'est 8 épisodes de 15 minutes, ça s'écoute
tout
seul. J'en écoutais un petit bout, je retournais cuisiner. On en reparlera quand plus de monde l'auront vu peut-être, là, parce que c'est dur des épisodes...
Mais mis à part le fait que le gars est gay et qu'il a une paralysie cérébrale, là, c'est bon ou...
C'est très bon.
Okay. OK.
C'est très, très bon.
Bon. Special sur Netflix.
Oui. Il n'est pas encore sorti, mais on prépare un jeu vidéo pour attirer l'attention sur les Jeux paralympiques. La compagnie JP Games a annoncé un jeu qui s'appellera The Pegasus Dream Tour, un jeu de rôle sportif fantastique ayant pour particularité d'être le premier jeu officiel des Jeux paralympiques.
OK.
Dans le jeu, les joueurs se réveillent avec des compétences spéciales pour participer à une version alternative des Jeux paralympiques.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus voir, ils ne peuvent plus...
Je ne sais pas, mais ça se déroule dans une ville fictive appelée Pegasus City et le projet vise à accroître l'intérêt du public pour les sports paralympiques. Il devrait donc sortir avant l'été 2020.
Mais pourquoi faire ça dans un lieu fictif plutôt que... Il me semble que ça aurait été une belle sensibilisation de dire « Regarde, t'es rendu à Tokyo, là... Faut que tu lances le javelot, t'as juste un bras, go mon gars. »
On va voir s'il y a quelqu'un qui parle français chez la compagnie JP Games, on pourrait peut-être leur demander directement.
Ouais.
J'ai une nouvelle qui ne concerne pas directement le handicap, mais moi j'y ai pensé tout de suite. Il y a une compagnie d'Australie qui a inventé une boîte de condoms supposément pour favoriser le consentement parce que ça faut appuyer sur 4 boutons, ça prend 4 mains. Pour l'ouvrir, c'est une vision un petit peu réduite du consentement.
4 mains incluant les siennes ou?
Oui, c'est ça. Donc, c'est une version un petit peu réduite du handicap, mais je trouve qu'ils ont rapidement
Attends, c'est quoi le lien avec le handicap, là? J'ai manqué, je pense que je me suis attardé aux 4 mains, moi.
Dans leur vision de la sexualité, il n'y a que des gens qui peuvent se servir de leurs 2 mains qui ont des relations sexuelles.
Ben oui, c'est ce que je me disais. Si je suis amputé, il me manque une main, ou en tout cas... OK.
Et puis, il y a eu un petit conflit aussi en Australie. Dans les joutes électorales, il y a une candidate qui a une amputation aux jambes et qui n'a toujours pas déménagé dans le comté où elle se présente. Elle a dit que c'est parce qu'elle a de la difficulté à trouver un logement accessible. Son adversaire a dit qu'elle se servait de son handicap pour le justifier.
C'est intéressant,
mais
ça.
Mais les organisations de défense des droits des personnes handicapées en Australie ont dit qu'en effet, il est très difficile de trouver des logements adaptés et en ont profité pour dire que le gouvernement actuel, représenté par le monsieur qui a fait le reproche à la dame, n'a pas fait grand-chose pour améliorer la situation, notamment en refusant de modifier le code du bâtiment.
Mais Christiane, sait-on si c'est une obligation légale ou c'est simplement de dire ça paraît mieux quand tu demeures là où tu vas travailler? Au niveau de la représentativité...
Si c'est comme ici, c'est pas une obligation légale.
Okay.
Donc, je pense que c'est plutôt une question de joute électorale et de dire si elle ne déménage pas par chez vous, c'est parce qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à vos intérêts.
Bon, je me tourne de bord. Désolé, Christiane, j'ai plus le temps. Mais Jérôme Bobin,
oui.
Vous êtes directeur de Humanité et... Exclusion?
Non. Inclusion, bien
inclusion,
sûr.
Inclusion, oui, c'est ça. Ça prenait un I. Canada? On parle de mines antipersonnelles. Vous en avez parlé un petit peu plus tôt ce mois-ci avec Hélène parce que, bon, il y avait une journée internationale qui parlait des mines antipersonnelles et j'avoue que j'avais encore des questions là-dessus. À savoir, d'abord, les pays qui posent les mines, est-ce qu'ils ont, par la suite, des obligations? Est-ce qu'ils doivent aider financièrement? Est-ce qu'ils sont tenus de réparer les dégâts?
Alors, c'est pas directement lié. C'est pas parce que vous posez des mines antipersonnelles que vous devez les supprimer, les enlever.
Moi, je trouve que c'est une bonne raison.
Mais en fait, ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça n'engendre pas une obligation de poser des mines pour avoir une obligation de,
non,
de régler
mais...
le problème. C'est ça que je veux dire.
Ouais.
Ça, en effet, tous ceux qui signent le traité d'Ottawa, parce qu'on est en train de parler d'un sujet qui est réglementé à l'échelle internationale par le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles. Donc, là, à peu près 160, plus de 160 pays ont signé ce traité. Ils ont tous l'obligation de faire quelque chose contre les mines antipersonnelles, ouais. qu'ils en aient posé ou qu'ils n'en aient pas posé, bien évidemment.
Mais si je n'ai pas signé et qu'on découvre que les mines sont installées lors d'un conflit particulier par mes hommes ou mes femmes, je ne suis pas tenu, on ne m'envoie pas la facture.
Pas directement, mais l'opinion publique mondiale sera quand même assez, compliquée avec cet État. Parce qu'imaginez qu'un des grands États qui a signé ce traité se retrouve pris les mains dans le sac, en fait. On est en train de dire ça. Ça ne passerait pas au niveau de l'opinion mondiale.
Bah oui et non. Là, je dirais pour avoir marché sur le plateau du Golan, les Syriens, semble-t-il, ont mis pas mal de mines dans ce coin-là. Et... on ne parle pas de la Syrie comme étant un pays qui a mis des mines, on parle de la Syrie comme étant Bachar al-Assad et qu'on...
Mais la Syrie, par exemple, n'a pas rejoint le traité. La Syrie fait partie de la trentaine de pays qui n'a pas rejoint le traité et qui n'est pas soumis à ses obligations. Ça ne les excuse pas d'avoir posé des mines et de continuer à en poser.
Bien sûr, justement, est-ce que des inspecteurs qui regardent si ma signature est, disons, si je fais ce que j'ai signé,
tout à fait. Oui, il y a différents mécanismes de contrôle, en fait. Déjà, avant d'envoyer des inspecteurs sur le terrain, il y a une rencontre annuelle qui a lieu forcément tous les ans, soit à New York, soit à Genève, où tous les États qui ont signé, y compris ceux qui n'ont pas signé, se rencontrent pour voir l'état d'avancement. Après, il y a une réunion tous les 5 ans pour prendre des engagements concrets sur le déminage. Et puis après, les ONG comme HI, comme d'autres ONG, envoient sur le terrain aussi des personnes qui peuvent constater quel type de mines ont été utilisées, si elles sont de quelle nationalité, et faire des rapports après qu'ils deviennent publics. Amnesty International en fait aussi, Human Rights Watch, plein d'organisations font des rapports sur ce qu'ils voient sur le terrain.
Est-ce qu'on voit vraiment une amélioration ou c'est difficile d'évaluer?
Dans l'usage des mines, oui, il y a une amélioration. Dans le nombre de victimes, non. Depuis 3-4 ans, le nombre de victimes a réaugmenté. On avait atteint une sorte de plafond, plutôt de seuil à 3000 victimes par an quand même. Là, depuis 3-4 ans, on est remonté au-dessus de 7000. Et le problème, un des problèmes, s'il y en avait qu'un, ça serait simple, c'est qu'en fait, on a de plus en plus devant nous des mines artisanales. C'est-à-dire que ce n'est pas des mines qui sortent d'usines, c'est des mines que les pouvoirs en présence ont fabriquées avec ce qu'ils avaient sous la main.
Ouais. Est-ce que c'est coûteux, une mine antipersonnelle?
Non, ça coûte $1.
Donc des factions, ce n'est pas nécessairement des gros gouvernements, ça peut être juste des factions qui vont paver un territoire quelconque de mines. Presque tout le monde peut mettre la main là-dessus.
Oui, moi je suis allé en Colombie encore il y a quelques temps, et là on voit des, je crois que je l'avais dit d'ailleurs à cette antenne, on voit des bouteilles de soda qui ont été transformées en mines antipersonnelles.
Ah ouais.
Avec donc du plastique, une petite seringue avec un petit bout de métal qui déclenchera l'explosion dans l'explosif. Mmh. Et puis ça fait office de mine antipersonnelle. Donc ça ne coûte rien à fabriquer, ça coûte énormément d'argent à chercher et à faire exploser. Et c'est bien le problème, on a un déséquilibre là, entre le coût que représente la pose d'une mine et puis le coût que représente le déminage et l'assistance des victimes. Imaginez après, quand on est devenu amputé à cause d'une mine, que cette assistance va durer toute la vie.
Est-ce que l'équipement pour déminer, arrive à suivre les nombreux modèles de mines? Bon, on voit toujours là, la fameuse soucoupe. Là,
le détecteur.
Oui, mais j'imagine que selon le modèle, il doit y avoir différents types de détecteurs.
Oui, alors moins il y a de métal, plus le détecteur est inefficace parce qu'il découvrira moins le métal. Donc, il faut trouver soit des détecteurs qui sont plus fins dans l'analyse, soit utiliser aussi des animaux, le chien qui va renifler en fait l'odeur de l'explosif, les rats aussi, les rats renifleurs. Ah ouais. Nous, on essaye en ce moment au Tchad, on essaie une nouvelle technologie aussi de drones, donc des drones qui survolent les territoires et qui identifient en scannant le territoire, qui identifient les endroits où il y a quelque chose de problématique, de métallique, et après les démineurs vont sur le terrain directement sur ces endroits-là.
Est-ce qu'un pays est responsable de faction à l'intérieur de son pays qui aurait produit des mines. Dans un pays signataire, je présume qu'il a comme règle de ne pas installer des mines, mais mm-hmm. est-il responsable de groupuscules à l'intérieur qui pourraient le faire?
Bah, ça, la question se pose. Est-ce que les grandes puissances sont liées à des groupes armés dans les différents conflits en cours actuellement? Mm-hmm. On le sait bien, il y a forcément des intérêts qui vont servir les uns ou les autres.
Donc, on peut dire que ce n'est pas nous.
Mais par contre, voilà, c'est pas nous.
Ouais.
C'est pas
donc
nous,
on
c'est
peut
les
être signataire, mais être hypocrite.
Ah ben ça, ça n'empêche... la signature d'un traité international n'a jamais empêché d'être hypocrite. Ouais. C'est la diplomatie, ça.
Donc pourquoi vous y croyez encore, Jérôme?
Mais parce qu'on a vu sur le terrain depuis 20 ans que le traité existe. On a vu, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins de mines utilisées, des territoires entiers libérés. Libérés pour éviter des nouveaux accidents, libérés pour construire des villes, des routes.
Ouais, mais
pour,
vous dites aussi qu'on est rendu à 5000 victimes alors qu'on était à 3000 il y a 3 ou 4 ans.
Oui, à cause justement des conflits en cours en Syrie, au Yémen, en Irak, en Afghanistan, tous les groupes armés qui continuent d'utiliser ce type d'armement. Mais est-ce que c'est justement, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrête les efforts? Je pense pas.
Le monde serait meilleur s'il y avait moins de sceptiques comme moi, j'imagine, et plus de gens actifs comme vous.
Il faut tout pour faire un monde.
Ouais. Ben merci d'être là. Merci de le faire, vous et les autres. Jérôme Bobin, donc, qui est directeur de Humanité et Inclusion. Jean-Sébastien?
Oui.
Nous, on va travailler sur l'émission de lundi prochain parce qu'on veut rester en congé, mais on veut quand même offrir du nouveau contenu à nos auditeurs. Alors, je vous invite à prendre une petite bouchée, puis après ça, on se retrouve. Tout ça comme avec Mme Campagna. Et les gens à la maison, ben vous entendrez le résultat de tout ça lundi prochain ou sur la balado de Accès Libre. Bonne semaine!